Salut chers amis, merci de me rejoindre pour ce nouveau module de l'Académie. Et aujourd'hui, c'est un module géographique, le module 92 sur les Pyrénées. Il s'agit donc d'un module géographique qui va t'aider à mieux comprendre la France, à mieux comprendre l'organisation du territoire. On va parler tout simplement du pays. On a essayé de le faire dans d'autres modules, je pense notamment au module sur le Massif central ou le module 19 qui parlait de la France de l'outre-mer, donc de tous les territoires qui ne sont pas situés au niveau de la métropole, donc en Europe, mais qui sont partout dans le monde. Et je pense que c'est intéressant de connaître la France, de connaître sa géographie quand on s'intéresse à la langue. Et la France est, comme beaucoup de grands pays, très riche d'un point de vue géographique. Quand on pense aux Pyrénées, on pense à des sommets enneigés, on pense à des grandes vallées verdoyantes et fantastiques, on pense au littoral ensoleillé, hein, au bord de la mer, beaucoup de mots à t'expliquer dans le fichier vocabulaire, on pense à des paysages à couper le souffle. Et les Pyrénées, c'est un peu tout ça à la fois. Il y a énormément de diversité et on ne peut pas passer à côté des Pyrénées quand on parle de la France. Alors, en quelques mots, c'est quoi les Pyrénées ? Essayez de te faire une petite synthèse pour débuter. C'est une chaîne de montagnes du sud-ouest de l'Europe. Jusqu'ici, c'est relativement clair. Cette chaîne de montagnes, elle sépare la France de l'Espagne. C'est relativement clair aussi. Ces montagnes s'étendent sur 430 km d'est en ouest. Ça va du golfe de Gascogne au golfe du Lion. Golfe de Gascogne, donc c'est à l'ouest, le golfe du Lion à l'est. Et du nord au sud, ça s'étend sur 60 à 140 km. Donc c'est entre la Gascogne et le bassin de l'Èbre. Le point culminant des Pyrénées, c'est le pic d'Aneto. Le pic d'Aneto en Espagne à 3404 mètres. L'influence, évidemment, et c'est pour ça que j'aime étudier à la fois l'histoire, la géographie et plein d'autres aspects liés à la culture, c'est qu'on voit ici que cette géographie, cette chaîne de montagnes, eh bien, ça a donné forcément ou ça a influencé la frontière entre la France et l'Espagne. On y reviendra. Il y a eu une grande influence de la montagne, ou de cette chaîne de montagnes, sur l'établissement de la frontière entre la France et l'Espagne, tout simplement. Attention, les Pyrénées, c'est féminin, d'accord ? C'est un mot féminin quand on parle de la chaîne de montagnes des Pyrénées. Là, on t'a fait une description super rapide, super condensée, et on aimerait aujourd'hui aller un peu plus en profondeur, te donner un peu plus de détails dans ce module, pour que tu puisses en savoir plus sur cette région incontournable de la belle France. Mais bien sûr, comme d'habitude, nous avons dû faire des sélections, ça ne peut pas être exhaustif, et bien qu'on va tenter de t'en dire un maximum, il y a plein de choses dont on ne pourra pas parler. Commençons par parler de la région, les régions des Pyrénées. Tu as déjà... on peut utiliser ce point de départ, un versant nord et un versant sud. Un versant, c'est un terme géologique, et ça correspond à une différence, à une surface qui est inclinée, comme ma main, hein, surface inclinée, on parle aussi d'une pente, entre un point haut, qui est le sommet, et un point bas, on appelle ça un talweg, ou talweg. C'est un chemin, en fait, le talweg, dans une vallée. Donc, il y a un versant, une pente, nord et une pente sud. Le versant nord, donc la pente nord de la chaîne des Pyrénées, c'est les Pyrénées françaises. Et le versant sud, eh bien, nous avons les Pyrénées espagnoles. Tu as notamment, je sais que nous avons des membres de l'Académie qui y résident, mais tu as notamment l'Andorre, qui est entre la France et l'Espagne. Il n'y a pas que la France et l'Espagne, il y a aussi la principauté d'Andorre. Et il y a, bien sûr, où il y aurait énormément de choses à dire sur les Pyrénées espagnoles, mais nous allons dans cette vidéo nous focaliser sur les Pyrénées françaises. et on dit bien Pyrénées françaises puisque c'est un nom féminin. En général, on distingue trois grandes régions principales dans les Pyrénées françaises. Tu as la partie occidentale à l'ouest, tu as la partie au milieu et la partie orientale à l'est. Et on va les détailler un petit peu. Nous avons donc les Pyrénées orientales, qu'on appelle aussi les Pyrénées atlantiques, parce que c'est la partie qui se situe au bord de l'océan Atlantique. Cette région, elle va de la côte basque jusqu'au col du Somport. C'est un col qui est situé sur la frontière entre l'Espagne et la France. Cette partie est assez peu élevée et elle descend vers l'ouest en fait. On a la montagne et on peut dire que ça descend vers l'ouest, ça descend vers l'océan et ça culmine au pic d'Agny en France à 2504 mètres. Cette partie, elle est occupée par le Pays Basque, le très célèbre Pays Basque, qui est une région qui est à cheval, c'est-à-dire qui est à la fois en Espagne et en France. Le Pays Basque propose une langue commune entre la partie française et espagnole, mais aussi une culture commune. Hein. C'est un peuple qui appartient à ces deux pays. Et il y a 7 provinces du Pays Basque dans cette partie. Nous avons aussi donc les Pyrénées centrales. Donc ça, c'est la partie qui est à la fois la plus large et la plus élevée. Donc cette partie va du pic d'Agny jusqu'au col de la Perche avec un point culminant au pic d'Aneto à 3404 mètres. Donc c'est vraiment la partie la plus haute des Pyrénées. Dans le massif de la Maladeta, dans la partie espagnole, on a ce point culminant. C'est le point le plus élevé des Pyrénées. La troisième partie, ce sont les Pyrénées orientales, qu'on appelle aussi les Pyrénées catalanes, parce qu'ils se trouvent sur la région de la Catalogne. C'est la partie où il y a Andorre, et dont on a parlé précédemment, la principauté d'Andorre. Le point culminant, c'est le pic Carli, à 2910 mètres. On a le petit fleuve La Tête, qui prend sa source à son pied, et qui va se jeter dans la mer Méditerranée. Cette partie des montagnes, cette partie orientale est aussi traversée par l'Ariège, l'Aude et le Sègre. Voyons maintenant comment les Pyrénées se sont formées. Donc, c'est un petit peu de géologie. Les Pyrénées, en fait, sont caractérisées par deux grandes failles. En géologie, et là je vais simplifier énormément, on n'est pas là pour être super précis, mais des grandes failles sont des sortes de grandes fissures, des grandes fractures dans le sol. Et en fait, tu as du coup deux blocs séparés qui peuvent bouger de part et d'autre. Et les Pyrénées sont caractérisées par du coup deux grandes failles. Elles sont orientées plus ou moins d'est en est, ces failles, et elles sont situées au nord et au sud de la chaîne. Donc tu as au sud de la chaîne une faille, une grande fissure, tu as la chaîne de montagne, et au nord, tu as une autre faille, une autre grande fissure. Et du coup, il y a eu un décrochement nord-pyrénéen, et un décrochement sud-pyrénéen, puisque les deux zones peuvent bouger. Et dans ces deux zones, on trouve l'endroit où la péninsule ibérique coulisse contre le sud de la France. Donc c'est un effet de pression ici, hein, les plaques en fait tectoniques, tu as des grandes plaques qui bougent sur le magma terrestre, et les plaques glissent les unes contre les autres. Soit elles glissent les unes sous les autres, soit parfois elles se tapent. Mais il y a une pression entre ces plaques, et ces pressions ont soulevé la zone et l'ont plissée. D'accord ? Ça a soulevé la zone, et c'est ça qui a formé les Pyrénées. Tu imagines que si tu as deux plaques avec une fissure entre les deux, qui viennent se toucher, forcément, quand tu appuies et que tu donnes une pression, eh bien, ça va monter, ça va créer une montagne. Donc c'est comme ça, d'une façon très 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 simplifiée, que les Pyrénées ont été créées. Une péninsule, c'est une immensité de terre entourée sur la plus grande partie de ses côtés par une mer ou un océan. Et la péninsule ibérique, eh bien, elle est située à la pointe sud-ouest de l'Europe et elle est composée de l'Espagne et du Portugal. On voit bien Espagne-Portugal, que ce sont des grandes étendues de terre qui sont entourées de mer. C'est ce qu'on appelle la péninsule ibérique. Donc là, on t'a donné finalement une explication rationnelle de la création des Pyrénées, mais il y a aussi une légende qui existe. Et tu me diras quelle explication tu préfères. Il s'agit de la légende de Pyrène. En fait, les premiers hommes civilisés à avoir colonisé les Pyrénées, c'était les Grecs, les anciens Grecs, sur la côte méditerranéenne. Et il y a une légende grecque qui raconte que Pyrène, qui était la fille du roi Bébrix, elle est tombée amoureuse d'Héraclès. Et elle se fait malheureusement dévorer par des bêtes sauvages. Oui, dans la mythologie grecque, il y a beaucoup de violence, beaucoup de personnes qui meurent. Et du coup, Héraclès, qui était fou de chagrin, il décide de lui construire un tombeau gigantesque pour lui rendre hommage. Et bien sûr, ce tombeau, c'est les Pyrénées. Donc tu peux croire à la version mythologique ou la version plutôt géologique en ce qui concerne la création des Pyrénées. Comme je disais tout à l'heure, l'histoire a toujours un impact, une influence sur la géographie. Et du coup, j'aime beaucoup, quand on parle géographie, aussi parler d'histoire. D'ailleurs, à l'école en France, on parle d'histoire-géographie. On étudie à la fois l'histoire et la géographie, c'est une même matière. Donc on va parler un peu de l'histoire des Pyrénées, même si c'est un peu long, tu peux prendre ton temps. C'est vraiment des informations qui sont intéressantes. Tu n'es pas obligé de tout retenir, mais ce sont des informations qui, à mon avis, ont de la valeur quand on s'intéresse aux Pyrénées et à la France en général. Au niveau de la préhistoire, on a eu plusieurs espèces d'hommes préhistoriques qui ont vécu dans les Pyrénées, notamment l'homme de Tautavel, très célèbre. Ça a été un nom qu'on a donné à un groupe d'Homo erectus, donc des hommes qui se tenaient debout et qui ont vécu dans les Pyrénées orientales entre 300 et 450 000 ans. Tu vois, ça fait très longtemps. Et on les a retrouvés, ou on a découvert les premiers, dans la commune de Tautavel. Ils font place aux hommes de Néandertal. Tu connais certainement aussi l'homme de Néandertal. Certains historiens, là on est vraiment dans le détail, hein, mais pensent que les hommes de Néandertal sont les descendants des Tautavel. D'accord ? Et d'autres pensent que c'est simplement une autre espèce qui les a remplacés. Mais l'homme de Néandertal, il est apparu dans les Pyrénées, on pense, il y a environ 100-150 000 ans. Ils se sont développés dans toute la chaîne de montagnes, ils ont même colonisé le bassin aquitain il y a 80 000 ans, et ils sont progressivement remplacés par l'homme de Cro-Magnon, très célèbre lui aussi, il y a environ 40 000 ans. Donc tout ça, c'est ce que pensent les scientifiques en ce qui concerne les populations préhistoriques qui ont habité dans les Pyrénées. On va survoler assez rapidement l'histoire des Pyrénées. On te disait tout à l'heure que les premiers à avoir colonisé les Pyrénées, ou en tout cas avoir mis les pieds au niveau des Pyrénées, sur la partie méditerranéenne, c'était les Grecs. Hein, ils ont implanté quelques colonies dans les Pyrénées. Ceux qui ont vraiment conquis la région en profondeur en premier, ça a été les Romains. Donc, conquête de la Catalogne en 210 avant Jésus-Christ, conquête de la Narbonnaise en 180 avant Jésus-Christ. Toute la zone des Pyrénées a ensuite été conquise ou contrôlée par Rome. On a aussi eu la conquête de l'Hispanie et de l'Aquitaine en 56 avant Jésus-Christ. Donc l'Empire romain a été présent dans la zone des Pyrénées. Après la chute de l'Empire romain, les Pyrénées sont tombées sous le contrôle d'abord des Visigoths, donc des envahisseurs, hein, on appelait ça des peuples barbares à l'époque, et ensuite les Sarrasins au 8e siècle. Et c'est là qu'on commence à entendre parler de figures assez connues dans l'histoire de France, notamment Charlemagne. Charlemagne reprend le contrôle des Pyrénées en 778. Donc Charlemagne, c'était un empereur franc. Alors on a fait une leçon, c'était pas un module, c'était dans 30 jours pour booster ton français. On a fait une leçon complète sur les Carolingiens, mais donc c'était un empereur franc, Charlemagne, qui a réglé sur une grande partie de l'Europe occidentale entre 768 et 814. Pendant son règne, il y a eu beaucoup de batailles dans les Pyrénées. Son territoire, il était divisé en comtés, c'est lui qui a commencé à bien diviser. Ça a été donc dirigé, chaque comté était dirigé par un comte qui était vassal du roi des Francs. Et peu à peu, c'est souvent le cas dans des régions montagneuses, hein, où on aime avoir son indépendance, les différents vassaux ne veulent plus dépendre du roi, mais ils veulent avoir leur indépendance. En 987, UKP succède à Louis V en tant que roi des Francs. C'est aussi une chose dont on a parlé dans le cours 30 jours. En 988, le comte de Barcelone, Borel II, en profite pour refuser de prêter serment à UKP. D'accord ? Donc ici, ça marque le début de l'indépendance de la Catalogne. Parce que le comte de Barcelone ne voulait pas être dépendant ou ne voulait pas être dominé par le roi des Francs, par Hugues Capet. Côté espagnol, on a eu ce qu'on appelait la Reconquista, célèbre bataille, hein, il y a eu plein de batailles entreprises par les princes chrétiens, parce qu'ils voulaient reprendre en fait la péninsule ibérique dont on a parlé tout à l'heure, qui était occupée par les musulmans. Donc dans les Pyrénées, on a eu la création du royaume de Navarre en 821, à partir de la ville de Pampelune, et la création du royaume d'Aragon en 1035, qui constituera plus tard une partie du royaume d'Espagne. Mais on voit bien ici que les chrétiens revenaient, à partir de la partie française, vers la partie espagnole aujourd'hui, mais vers la péninsule ibérique, pour chasser les musulmans qui avaient occupé toute l'Espagne. En 1258, on a le traité de Corbeil entre Saint-Louis, roi de France, et Jacques le Conquérant, roi d'Aragon, justement, et ça fixera une première frontière entre la France et l'Espagne. D'accord ? Donc tu vois que c'est très ancien, ça date de 1258, et cette première frontière, évidemment, elle va passer par les Pyrénées. En 1515, Ferdinand II d'Aragon, il annexe une grande partie du royaume de Navarre, et la Basse-Navarre va rester, elle, indépendante. En 1635, la France intervient dans la guerre de 30 ans, donc qui a duré de 1618 à 1648. C'était plein de conflits armés qui ont eu lieu en Europe centrale à cause notamment de divergences religieuses et politiques. Hein, c'était souvent le cas dans les grands conflits de cette époque. Et la France et l'Espagne vont... Parce qu'il y aura une guerre, en fait, qui va durer de 1665 à 1659. C'est la guerre franco-espagnole. Et la France et l'Espagne signeront un traité pour mettre fin à la guerre, avec des nouveaux échanges de territoires dans la zone et avec une frontière entre les deux pays qui va être proche de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le traité de Bayonne, en 1866, qui fixe des frontières entre les États tels que nous les connaissons aujourd'hui. Donc on voit bien que, comme partout dans le monde, ou comme à beaucoup, beaucoup d'endroits, les frontières n'ont pas été fixes. Hein. Au cours de l'histoire, elles ont beaucoup bougé pour atteindre l'État dans lequel elles sont aujourd'hui. Parlons un peu de la faune et de la flore des Pyrénées. La faune, c'est l'ensemble des animaux qui vivent dans une région, et la flore, c'est l'ensemble des plantes qui poussent ou qu'on trouve dans la région. Comme les Pyrénées, eh bien, c'est une région qui est montagneuse, il y a une grande diversité d'espèces animales et végétales, hein, en fonction de l'altitude. On a créé le parc des Pyrénées en 1967, parce qu'on voulait gérer et protéger cet espace très riche, justement, et faire en sorte que l'homme ne détruise pas tout, comme il sait très bien le faire. Et c'est donc un territoire aujourd'hui de plus de 45 000 hectares, sur lequel on retrouve un certain nombre d'espèces intéressantes. Encore une fois, on va t'en citer pas mal, juste pour que tu les aies entendues. On essaiera de te mettre des illustrations, et ce sera bien sûr non exhaustif. Au niveau des mammifères, on a bien sûr l'ours. C'est un des animaux les plus emblématiques des Pyrénées, l'ours des Pyrénées. C'est le dernier endroit en France, les Pyrénées, et même dans tout le sud de l'Europe, où on trouve des ours bruns. L'ours brun a totalement disparu des Alpes, il y a bien longtemps, et... Jusque dans les années 60, il en restait une cinquantaine dans les Pyrénées. Donc environ 50 ours. Dans les années 90, il en restait 6 ou 7. Donc on voit bien que l'ours ou l'espèce était en voie de disparition, notamment à cause de la chasse et du braconnage. Hein, donc le braconnage, c'est quand des chasseurs vont abattre des espèces alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Pour empêcher la population de s'éteindre complètement, il y a eu, entre 1996 et 2006, des ours qui ont été relâchés dans les Pyrénées. Je me souviens très bien de cet épisode, on en avait beaucoup parlé dans la presse française. C'était des ours originaires de Slovénie qu'on avait réintroduits parce qu'ils sont les plus proches des ours des Pyrénées. Et en 2004, la dernière ours des Pyrénées de souche pure a été tuée par un chasseur. Donc il n'existe aujourd'hui plus d'ours purement des Pyrénées, mais ce sont les descendants des ours de Slovénie. Mais je suis très content qu'il y ait encore des ours dans les Pyrénées. D'autres mammifères intéressants, on retrouve l'isard, qui est un cousin du chamois. On retrouve aussi le descement des Pyrénées, qui est un cousin de la taupe, mais qui vit dans les rivières. C'est un animal très très rare. Alors, c'est un peu différent ici, mais on ne peut pas parler des Pyrénées sans parler des chiens des Pyrénées. Ce sont pas des animaux qui sont naturellement présents dans les Pyrénées. On a le chien de montagne, le patou. C'est un grand chien, hein, qui fait souvent plus de 50 kilos. Et qui est sélectionné depuis toujours pour conduire les troupeaux et les défendre contre les grands prédateurs. On a le berger des Pyrénées à poil long, qui est plus petit mais très vif et très très connu, souvent utilisé pour garder et rassembler les troupeaux, encore une fois, et aussi, bien sûr, on l'utilise aussi comme animal de compagnie. Au niveau des oiseaux, on a bien sûr des vautours et des aigles royaux, qui sont des rapaces, donc des oiseaux qu'on retrouve beaucoup dans les montagnes. Au niveau des plantes, il y en a bien sûr une multitude. Ce sont des plantes fascinantes qui vivent dans les hautes montagnes et on en a protégé un certain nombre pour être sûr qu'elles ne disparaissent pas parce que certaines sont en voie de disparition et certaines sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles sont issues et on ne les trouve que dans les Pyrénées finalement. Si on en cite trois, on peut citer le saule des Pyrénées, qui est un petit arbre, un arbre nain, qui ne dépasse pas les 50 cm de haut, l'iris des Pyrénées et le lys des Pyrénées. Au niveau de l'activité économique, on a deux grands secteurs. On a bien sûr l'agriculture, hein, et tout ce qui est secteur primaire, donc l'agriculture, dans ce qu'on appelle des estives. Des estives, ce sont des prairies qui couvrent plus ou moins un tiers du massif. On y trouve par exemple le fromage de brebis des Pyrénées, qui est très réputé. On a la vigne, qui est une activité importante, mais côté méditerranéen, pas forcément de l'autre côté. On a des vignobles importants, comme ceux de la Corbière, très connus et très, j'aime beaucoup personnellement, ou de Banyuls. On a des forêts, qui sont bien sûr source d'une grosse industrie du bois, et nous avons également des eaux minérales, qui sont puisées dans plusieurs sources et commercialisées, après avoir été mises en bouteille évidemment, comme l'eau d'Alais ou de Luchon. Qui ne sont que deux exemples. Évidemment, vu la région, les Pyrénées, c'est aussi très orienté tourisme, en été comme en hiver. C'est l'avantage de la région. Les Français viennent en masse dans les Pyrénées, et bien sûr, les touristes viennent du monde entier pour prendre des vacances dans les Pyrénées. On a des stations de ski, des chemins de randonnée, des stations thermales, et il y a aussi ce qu'on appelle des pèlerinages spirituels, c'est-à-dire des longues marches, mais qui ont une connotation religieuse, notamment Lourdes ou le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Il y a des points d'intérêt scientifiques, comme l'observatoire du Pic du Midi, qui est très très connu, le four solaire d'Odeillo, les grottes de Bétaram, et le site dont on a parlé tout à l'heure, ou le musée en tout cas, c'est un site sur lequel on a installé un musée, c'est le musée de la préhistoire de Totavel, qui reprend tout ce dont on a parlé tout à l'heure au niveau de la préhistoire. Et il y a énormément, énormément d'autres points d'intérêt, d'autres choses à voir et d'autres choses à manger, bien sûr. La France ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas des spécialités culinaires un peu partout. Et ici, on peut citer le porc noir de Bigorre, la tomme des Pyrénées, un super fromage, le gâteau à la broche ou l'oignon doux de Trébon. Et évidemment, il y en a beaucoup d'autres. L'industrie était très présente dans cette région, mais comme partout en France, elle est en train de décliner et elle disparaît progressivement, puisque la France se désindustrialise énormément depuis, je dirais, cinquantaine d'années à peu près. Mais l'artisanat, lui, se développe grâce à l'attrait du tourisme. Tu pourras faire une recherche, Valentine avait trouvé pas mal de mythes et croyances à propos des Pyrénées, donc si c'est un sujet qui t'intéresse, ça peut, à mon avis, être quelque chose de sympathique. On pourra citer les légendes chrétiennes qui existent dans les Pyrénées. Et pour les autres, tu pourras les voir par toi-même. Je les ai découverts grâce à Valentine et c'est très, très intéressant, très sympathique. Mais parmi les légendes chrétiennes qu'on peut citer dans les Pyrénées, il y a l'apparition de la Vierge. Il y a les miracles de Lourdes. Beaucoup de gens pensent que s'ils vont à Lourdes et qu'ils font un pèlerinage, eh bien, ils peuvent guérir. On a des témoignages de personnes aveugles qui sont allées à Lourdes et qui ont retrouvé la vue, ou des personnes handicapées qui sont allées à Lourdes et qui sont revenues et qui marchaient. Donc voilà, ce sont énormément de légendes. À nous de les croire ou de ne pas les croire. On fait vraiment comme on veut. Et si tu as un doute, eh bien, c'est une bonne raison pour aller vérifier par toi-même et voir ce qu'il en est. Donc comme tu l'as vu, les Pyrénées, eh bien, c'est un lieu riche à tous les niveaux. Tu as de la culture, du tourisme, de l'histoire, des paysages, de la gastronomie, etc. On a vu que c'est un territoire qui a beaucoup évolué, aussi bien d'un point de vue politique, social, religieux, au niveau de la nature et au niveau de la géographie même, hein, au niveau des frontières. Donc ça a été une zone qui a énormément bougé et évolué. Aujourd'hui, les choses sont moins en mouvement qu'elles ne l'étaient à une certaine époque, mais ça continue de changer. Pour aller plus loin, si ça t'intéresse, il y a des dizaines de documentaires que tu peux aller regarder sur YouTube, sur la faune, sur la flore, sur le tourisme, sur l'histoire, sur les légendes. On n'a pas pu tout citer aujourd'hui, mais il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir sur les Pyrénées. C'est définitivement un incontournable du paysage français. Je te recommande, si tu souhaites y aller, eh bien d'aller faire un tour et de le découvrir. Tu peux y aller seul, tu peux y aller en famille si tu veux faire du ski, tu peux y aller avec tes amis si tu veux aller dans une station thermale et te détendre. C'est vraiment pour tout le monde et vraiment pour toute l'année, aussi bien en été qu'en hiver. Donc j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, avant bien sûr d'aller ou après avoir consulté les fichiers vocabulaire et prononciation pour aller plus loin dans ce module, n'hésite pas à consulter d'autres modules liés à la géographie française. Je te citais le module tout à l'heure sur le Massif central, ou encore le module sur la France de l'Outre-mer, mais c'est très intéressant d'aller voir ces modules géographiques ou ces modules historiques. Tout est classé par catégorie. Les modules géographiques, tu les retrouves dans la catégorie La France, sur ta page de base des modules, et tu peux venir nous en parler sur les groupes privés Facebook ou Telegram. J'aimerais aussi entendre nos amis espagnols, vous êtes nombreux à faire partie de la grande famille de l'Académie, et donc j'aimerais beaucoup vous entendre sur le sujet, et évidemment, n'oublie pas d'aller faire un tour dans la salle Zoom 24h sur 24, et de profiter de toutes les autres ressources, les réunions avec nos tuteurs, les dictées, les fiches SOS. Il y a énormément, énormément de contenu pour toi sur la plateforme. Merci d'avoir suivi ce module 92 et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau module. Salut !